Bonjour, voici le podcast pour comprendre et maîtriser l'assurance vie proposé par GMF.
Michael Joussaume, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Michael, vous êtes responsable du pôle expertise marché financier au sein de la direction assurance vie. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
D'accord. De par votre métier, vous êtes le mieux à même de nous donner des éléments d'explication pour le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, le sujet de l'inflation. Et plus particulièrement de l'inflation et de ses impacts sur l'épargne des Français. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, de commencer avec cette première question qui va nous permettre de savoir de quoi parle-t-on. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'inflation et quels sont ses effets concrets ?
Alors oui, compte tenu de la période actuelle, je pense que tout le monde a maintenant bien entendu parler de l'inflation. Nous n'entrerons donc pas dans une longue définition, ce n'est pas nécessaire. Disons simplement que l'inflation se traduit par une augmentation généralisée des prix. Globalement, l'inflation représente donc une perte du pouvoir d'achat, dont l'effet est très concret pour le consommateur, hein, qui voit les prix augmenter. Pour l'épargnant, les effets de l'inflation sont un peu plus difficiles, plus sournois, puisqu'ils ne se mesurent pas au quotidien. Mais on peut là aussi évoquer la perte du pouvoir d'achat d'épargne. Ainsi, les biens ou services que l'épargnant peut acheter aujourd'hui, avec ses économies, sont supérieurs à ce qu'il pourrait acheter demain, c'est l'inflation.
Et pourquoi cette question de l'inflation revêt une grande importance pour les épargnants et les investisseurs principalement ?
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand l'inflation est élevée, et surtout qu'elle dure dans le temps, cela provoque une perte du pouvoir d'achat pour les consommateurs comme pour les épargnants. En soi, l'inflation n'est pas un sujet pour les épargnants, plus en tout cas que pour les consommateurs. Mais les conséquences sont certainement moins visibles pour les épargnants.
Pouvez-vous nous expliquer ça ?
Alors, lorsque l'inflation progresse, et on le voit bien aujourd'hui, les rendements de l'épargne, dite sécurisée, ont tendance à augmenter. Alors, pas en raison de l'inflation, mais en raison de la hausse des taux d'intérêt qui vont avec. Aussi, l'épargnant a l'impression que le rendement de son épargne progresse, c'est le taux, ce qui est vrai hein, lorsqu'on regarde uniquement ce fameux taux, mais ce qui est faux lorsqu'on regarde ce taux et qu'on le compare au niveau de l'inflation. C'est ce qu'on appelle le rendement net de l'inflation. Aussi, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que mieux vaut une inflation modérée avec des taux d'intérêt qui le sont également, ce qui permet finalement d'apporter un rendement net positif à l'épargnant, plutôt qu'une forte inflation avec des taux d'apparence plus élevés, mais qui restent en fait inférieurs au taux de l'inflation lui-même. Ce qui génère un rendement net de l'inflation négatif pour l'épargnant, qui se positionne uniquement sur des rendements sécurisés, le livret A, le support en euros, et puis plein d'autres également.
D'accord, donc si j'ai bien compris, en cas d'inflation, le bon réflexe est d'agir et de mettre ses économies à l'abri. En clair, de vendre, ou par exemple, ses actions, ses actifs.
Oui, alors c'est un réflexe naturel, mais en cas de forte inflation, mais d'ailleurs comme de tout autre événement, hein, des événements non maîtrisés pour l'épargnant, l'important est de rester concentré sur ses propres objectifs à moyen et surtout long terme. C'est quelque chose qu'on répète très souvent.
On ne vend pas.
S'il a été défini qu'une proportion des placements en actions était nécessaire pour dynamiser le rendement et atteindre ses objectifs, il faut conserver cette proportion indépendamment de ce qui se passe, de l'actualité, de court terme. Pour reprendre le cas de figure que vous exprimez, vous disiez mettre ses économies à l'abri en cas de forte inflation. En l'occurrence, mettre ses abris, ça signifie une perte certaine du pouvoir d'achat. Donc, il ne faut surtout pas réagir dans la précipitation, mais comme toujours, garder son sang-froid.
D'accord, donc si on a tous ces éléments en tête, du coup, quels sont les placements les plus sensibles à l'inflation ?
Beaucoup de choses, mais d'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que tous les produits qui affichent un taux d'intérêt fixe ou garantie, comme les livrets justement ou les supports en euros des contrats, sont particulièrement sensibles à l'inflation. On peut le dire de manière assez simple. Hein. Prenons ce fameux livret A. Son taux a été relevé pour atteindre 2%. Je pense que tout le monde l'a bien à l'esprit. Alors évidemment, 2%, c'est bien mieux que les 0,5 d'il y a quelques temps, hein, quelques mois. Mais si l'inflation est à 6%, 2% contre 6%, cela représente bien une perte du pouvoir d'achat de 4% pour l'épargnant.
Et l'assurance-vie dans tout ça ? D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les façons d'investir via l'assurance-vie ?
Alors, Aujourd'hui, la plupart des contrats d'assurance-vie proposent de nombreux supports d'investissement, à commencer bien entendu par le support en euros qui est connu de tous les Français. Ce support en euros affiche des garanties de sécurité importantes. Et puis, il y a aussi les unités de compte. Ces unités de compte sont très variées dans leur démarche. Elles peuvent réaliser des investissements dans un pays, une zone géographique spécifique ou dans un secteur économique en particulier. La répartition entre ces deux poches, le support en euros et les unités de compte, vont avoir un certain nombre d'avantages puisque le support en euros, on l'a dit, présente des garanties. Les unités de compte, elles, vont permettre d'aller chercher un peu plus de dynamisme. Et c'est bien l'association de ces deux poches qui vont permettre d'atteindre les objectifs définis à moyen et long terme par chacun des assurés.
D'accord. Donc, si je résume, vous me dites si je dis une bêtise. Donc, en assurance vie, on a deux poches. La poche fonds en euros, donc fonds garantis, et la poche unité de compte, qui des supports qui sont là pour aller chercher de la performance et du dynamisme.
Et c'est exactement ça, le tout au sein d'un seul et même contrat. Et l'intérêt, c'est évidemment d'associer la poche garantie avec la poche qui l'est moins pour globalement aller chercher un objectif de rendement à échéance.
D'accord, c'est clair. Justement, on peut lire dans la presse que les fameux fonds en euros déclinent, qu'ils peut-être intéressant de se tourner quasi exclusivement vers les unités de compte. Vous pensez quoi de ce message qui est diffusé depuis plusieurs années maintenant ? Est-ce vraiment à l'avantage des épargnants ?
Alors, le marché a beaucoup évolué, mais disons que les supports en euros présentent toujours, malgré tout, de nombreux avantages. On va commencer par la garantie, on l'a évoqué, mais également la liquidité. Alors, comme tous les supports, le support en euros n'a pas tous les avantages, hein, avec notamment, on en a beaucoup parlé, un rendement qui s'est érodé, hein, mais ça a été le cas aussi comme pour un certain nombre de produits à rendement garanti. Au passage, je vous rappelle quand même que l'année passée, le rendement du livret A était de 0,50%. Sur l'année, et celui des supports en euros de l'ordre de 1,50 en moyenne. Alors évidemment, hein, la fiscalité est différente entre ces deux types de produits, mais l'idée c'est de donner quand même un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent en termes de taux de rendement. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il peut être intéressant quand même pour certains profils d'épargnants de compléter un premier investissement sur son support en euros avec une diversification sur des supports en unités de compte. Voilà, pour chercher un surcroît de rendement à moyen et long terme. Et globalement, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est bien la grande force de l'assurance vie, hein, qui donne accès au sein d'un seul et même contrat à ces nombreuses solutions. Et ce contrat, lui, est en capacité d'aller associer ces combinaisons sur de très longues périodes et de servir les intérêts de l'épargnant. D'ailleurs, ils l'ont bien compris, hein. C'était un peu le sens de votre question, car ils utilisent de manière croissante des unités de compte. Dans un environnement qui voit le grand retour de l'inflation, cette diversification, c'est sûr, reste plus que jamais nécessaire, hein, si on veut maintenir, encore une fois, ce pouvoir d'achat de l'épargne.
D'accord. Donc vous nous parlez des avantages des unités de compte, mais contrairement aux fonds en euros, finalement, ces unités de compte-là ne sont pas garanties, ce qui signifie plus de risques pour les épargnants. Alors, du coup, est-ce qu'il est possible de maîtriser en partie ces risques supplémentaires ?
Alors, en préambule, il faut tout de même rappeler que le risque dont on parle n'est pas toujours là où on l'imagine. Hein. Quand on évoquait tout à l'heure le sujet autour de l'inflation, hein, aujourd'hui, compte tenu de ces niveaux, on est assuré que les placements à taux garanti vont présenter en fin d'année un rendement net négatif pour l'épargnant. Hein. L'exemple, c'est une inflation à 6%, un rendement à 2%, par exemple pour le livret A, cela signifie une perte du pouvoir d'achat de 4%.
4%, oui, c'est énorme.
Mais bon, pour revenir à votre question sur les unités de compte, tous les assureurs, et nous également évidemment, proposons des supports en unités de compte ayant des profils de rendement et des profils de risque bien différents.
Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'on peut choisir un petit peu à la carte, hein, ce qu'on met dans son contrat d'assurance vie.
Et c'est exactement ça. Et l'idée, c'est de permettre au plus grand nombre d'investisseurs de trouver la solution qui va correspondre à son horizon, à son objectif de placement.
Alors, vous parlez d'horizon, de placement, d'objectifs de placement. Vous pouvez nous donner davantage d'explications sur ces notions qui peuvent être un peu nébuleuses et nous donner des exemples.
Oui, bien sûr. En fait, l'assurance vie, on le disait tout à l'heure, se positionne sur un temps moyen, long terme. Donc là, lorsqu'on va parler de projet, on va parler du financement des études futures des enfants, on va parler d'un projet immobilier à moyen terme ou tout simplement, on en parle beaucoup aujourd'hui, du financement de sa retraite.
D'accord. Et donc, pour en revenir à nos unités de compte ?
Alors voilà, pour en revenir à nos unités de compte, en fait, il faut aussi se souvenir qu'elles sont systématiquement ou quasi systématiquement proposées en association, en combinaison avec le support en euros. On l'a dit tout à l'heure aussi, il présente 8 des garanties.
Hein, ouais.
C'est donc bien au niveau global du contrat qu'on va regarder cette répartition entre les différents supports, support en euros, support en unités de compte, et c'est ça qui va justement permettre cette maîtrise, en tout cas une certaine maîtrise du risque. Enfin, c'est important, encore une fois, hein, cette notion de durée, puisqu'en fait, le moyen et le long terme présentent en plus l'intérêt de lisser dans le temps la nervosité des marchés financiers.
C'est-à-dire ?
Souscrire, par exemple, une UC en action aujourd'hui et la vendre quelques mois après, là, ça va présenter des risques de perte en capital significatifs. Alors que si vous conservez plusieurs années cette même unité de compte en action, le risque de perte en capital, il va être plus limité.
Hein.
Sur un temps long, on le voit bien d'ailleurs avec le comportement des marchés financiers, hein, les fonds sur lesquels vous aurez investi seront moins sensibles généralement à la volatilité du cours de ces actions.
Et on a d'autres outils pour...
Alors, il y en a beaucoup d'autres, mais en fait, il me vient à l'esprit les versements réguliers. Hein, les versements réguliers versés tous les mois, tous les trimestres, un montant que vous avez décidé, évidemment. Ça va permettre d'avoir plusieurs points d'entrée de souscription hein, sur cette unité de compte. Et bien, ça va avoir un phénomène de moyenne et ça va lisser dans le temps cette nervosité de la valeur de votre épargne.
D'accord. Et vous, en tant qu'assureur, vous êtes évidemment sensible à l'environnement économique et financier. Comment vos équipes font pour être dans l'anticipation, ce qui n'est pas toujours facile, j'imagine, mais et pour pouvoir gérer l'épargne des assurés en bon père de famille. Est-ce que vous avez fait des projections ? Est-ce que vous avez établi des scénarios pour les mois à venir ?
Alors, la question que vous posez est double, hein, en réalité, puisque tout d'abord, l'assureur que nous sommes gère en effet l'épargne qui lui est confiée par ses clients, ce qu'on appelle en bon père de famille. Hein, cela... On va le retrouver dans la gestion de notre support en euros, largement diversifié, et ainsi de suite. On pourrait y revenir, mais aussi des supports en unités de compte que nous proposons. Après, je pense qu'il faut faire attention et prendre garde à ne pas prophétiser. Hein, parce que si, bien entendu, nous faisons des analyses assez précises de scénarios économiques et en nous mettant en place une stratégie hein, naturellement qui en découle, depuis plusieurs années, on voit bien que... il y a eu nombreux bouleversements. Alors, il nous vient tous à l'esprit l'idée de la pandémie
COVID,
ou encore
la guerre
opposant la Russie et l'Ukraine. Donc, il faut faire attention. En fait, on essaie de maîtriser les choses. On ne peut pas tout maîtriser.
Bien hein.
Après, en fait, et là aussi, c'est important, à partir des objectifs qui nous sont communiqués dans les échanges avec nos clients, on va les accompagner dans le temps, tout au long de leur temps de placement, tout au long de leur vie, pour les aider à répartir au mieux les investissements qu'ils vont faire pour que ce soit adapté aux objectifs dont nous avons parlé tout à l'heure. Et les accompagner, ça veut dire les suivre régulièrement dans leurs objectifs, mais également suivre les grandes tendances de l'économie et des marchés financiers. J'insiste, hein, cet objectif de client, c'est vraiment le maître mot, c'est la clé de voûte hein, de notre accompagnement. Il ne faut pas se tromper. C'est bien à partir des objectifs du client et de leur évolution dans le temps, évidemment, on a le droit de changer d'objectif, qu'il faut répartir les investissements. Et ce n'est pas en fonction de l'évolution quotidienne ou telle information, de tel ou tel événement, l'indice sur les marchés d'actions financiers, je n'en sais rien, qu'on va apporter une modification à la répartition de ces investissements. C'est véritablement clé dans la démarche.
D'accord, très clair. C'est très clair. Michael, il est maintenant l'heure de conclure ce podcast.
Pardon Fabrice, un instant, je suis dans l'obligation de rajouter un point.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis, mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Cet investissement peut entraîner un risque de perte en capital supporté par l'épargnant.
Et pourquoi vous êtes tenu d'apporter cette précision ?
C'est une obligation légale issue d'un cadre réglementaire qui s'impose à tous les acteurs de l'assurance afin de protéger tous les épargnants.
Très bien, c'est noté. Ce podcast est à présent terminé. Mickaël Jousseau, merci pour votre intervention et pour vos explications.
Merci Fabrice.
Et à bientôt pour un nouvel épisode.
À bientôt.
Ce podcast est produit par la direction Assurance Vie et les Eco Publishing pour GMF.